VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean Roger Villon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le nombre de décès de la maladie à virus Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo a dépassé la barre de 1500 décès en 10 mois dans deux provinces où elle sévit. L'épidémie déclarée le 1er août sur le sol congolais, la 10e en RDC depuis 1976 et la 2e la plus grave dans l'histoire de la maladie, après quelque 11 000 morts enregistrés en Afrique de l'Ouest en 2014. Les Nations Unies ont nommé le 23 mai un coordinateur de l'intervention d'urgence contre l'épidémie d'Ebola en RDC pour entreprendre de nouveaux efforts dans la riposte. 6 enfants des rues qui dormaient dans un collecteur d'eau pluviale à côté d'une école d'élite de la capitale ougandaise ont été tués dans l'affrontement d'un mur, dans l'effondrement du moins d'un mur de l'établissement, a déclaré la police ce lundi. Une équipe de secours de la police ougandaise tente d'établir si d'autres victimes sont prises sous les décombres. Il s'agit du 2e incident de ce genre au cours des dernières semaines, après la mort le mois dernier de 5 personnes qui dormaient dans une maison quand un mur s'est effondré sur eux. En RDC, l'opposant Jean-Pierre Bemba a regagné hier Kinshasa après son bref séjour dans la capitale congolaise en août dernier. Suite à son acquittement par la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bemba annonce de nombreuses manifestations pacifiques contre le régime du président Félix Tshisekedi, dont il critique notamment la gestion. Le point tout de suite avec notre correspondant de notre station partenaire à Kinshasa, Thierry Kabundi.
C'est à 7h45 que s'est posé à l'aéroport international de Ndjili l'aéronef qui transportait Jean-Pierre Bemba. Accueilli par Martin Fayulu et d'autres leaders de la plateforme de l'opposition Lamuka, le président du mouvement de libération du Congo va quitter l'aéroport 5 heures plus tard, accompagné de nombreux militants de l'opposition pour la place Sainte-Thérèse de Ndjili, lieu de son meeting qu'il atteindra aux environs de 17h. Sur place, Jean-Pierre Bemba va passer toute l'actualité de la RDC au peigne fin. Vous connaissez les résultats des élections de 2006, de 2011 et vous savez qui a gagné la présidentielle du 30 décembre dernier, a-t-il lancé, dénonçant le travail de la CENI et l'invalidation par la Cour constitutionnelle d'une trentaine des députés et sénateurs de l'opposition. Jean-Pierre Bemba a par ailleurs souligné l'unité au sein de la coalition Lamuka qui, lance-t-il, organisera prochainement des actions pacifiques au profit du peuple congolais. À la question d'un militant de savoir s'il va travailler avec Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba s'est contenté de dire, je cite, « Nous luttons pour une vraie démocratie en RDC. Nous devons respecter les opinions des autres. » Fin de citation. Kinshasa, Thierry Kambondi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle en Mauritanie, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a été élu avec 52% des suffrages au premier tour selon les résultats annoncés dimanche soir par la commission électorale et récusés d'emblée par ses adversaires. L'opposition mauritanienne a rejeté donc les résultats, exigeant de la CENI leur publication bureau par bureau afin de pouvoir les comparer avec ses propres relevés impliquant, selon elle, la probable tenue d'un second tour. Le sujet, Idrissa Seydou Dia. Nous reviendrons sur Idrissa Seydou Dia dans nos prochaines éditions. Le conseil militaire au pouvoir au Soudan a réclamé dimanche un plan commun du médiateur éthiopien et de l'Union africaine pour dessiner les grandes lignes de la transition. Les dirigeants militaires ont exprimé des réserves sur une proposition présentée par Addis Abeba après plusieurs mois de manifestations qui ont poussé en avril l'armée à destituer le président Omar el-Béchir. Le Soudan est le théâtre d'un bras de fer entre le conseil militaire de transition qui a succédé à M. Béchir, les chefs du mouvement de contestation qui exige le transfert de pouvoir aux civils. Au Burkina Faso, le nouveau code pénal adopté par l'Assemblée nationale continue de susciter des critiques. Certaines de ses dispositions restreignent, dit-on, les libertés et peuvent condamner jusqu'à 10 ans de prison pour diffusion d'informations sur les opérations militaires. Les détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
L'opposition a parlé de nouveaux coups d'État.
Cette loi votée vendredi par le Parlement burkinabé porte en elle des éléments attentatoires à la liberté de la presse, juge Guezouma Sanogo, président de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina Faso.
Nous n'avons à aucun moment été associés au processus. Et si vous regardez dans le processus, c'est plus les organisations professionnelles des médias, c'est-à-dire les journalistes qui ont été les plus exclus. Puis, vous prenez la loi dans les fonds. Il y a quand même un problème. Quand on dit que c'est un site d'attaque, on ne peut plus faire un direct, c'est quand même nouveau. Et que même si vous avez des images, des interviews, pour les diffuser, il faut une autorisation. Et encore qu'on qualifie même la tentative et qu'on la sanctionne. On doit être réaliste et admettre quand même qu'il y a problème avec cette loi.
Au-delà de la sévérité des amendes prévues en ces articles 312 et 316 de l'avis des experts, c'est surtout les durées des peines d'emprisonnement. Toute personne condamnée sous la loi pourra écoper jusqu'à 10 ans de prison, mais bien plus, sous des notions encore vagues et la volonté claire d'interdire et faire punir tout auteur de communication en relation avec l'information sur les actions terroristes. De quoi inquiéter Charles Kenderbeogo, président de l'organisation Reporter du Faso.
C'est vrai que les forces de l'ordre ont des difficultés sur le terrain parce que l'information sans beaucoup de recul, sans beaucoup de recoupement, peut créer des problèmes. C'est pas une mauvaise chose en tant que telle, mais on ne sait pas jusqu'où cette loi sera encadrée. On ne peut pas publier peut-être des images au cours de l'opération, mais à partir de quel moment va-t-on pouvoir le faire? Qui va donner ce quitus-là? Il y a beaucoup de zones d'ombre qu'on ne peut pas saisir. L'inquiétude, surtout, c'est au niveau des réseaux sociaux où il y a beaucoup de dérapages. Je comprends bien que c'est peut-être ce milieu qui est visé, mais il ne faut pas aussi jeter le bébé avec l'eau du bain.
Cette loi n'est pas si liberticide que cela, tempère Maître Apollinaire Kielem, analyste politique et avocat au barreau de Ouagadougou.
Ça, je ne vois pas pourquoi un journaliste va se plaindre, parce que si tu fais professionnellement ton travail, tu ne vas pas diffuser de fausses informations. Et même si tu le faisais, ce ne serait pas intentionnel. Dans ce cas-là, on ne peut pas appliquer la loi à toi. Il y a une loi qui est prévue pour ça. Tous ceux qui se lient à la communication, qui propagent des nouvelles, ne sont pas tous des journalistes. Si ces gens-là commettent une infraction, en vertu de quelle loi on va les poursuivre s'il n'y a pas de disposition précise?
Heureusement, des voies de recours existent, comme l'explique l'analyste de politique publique pour l'ONG Diakonia, Roger Minungo.
Après l'adoption d'un texte de loi à l'Assemblée nationale, il faut attendre 21 jours pour que la loi entre en vigueur. Cela veut dire que le président du Faso a encore des possibilités de faire relire la loi si effectivement il estime que certaines dispositions ou le contenu de la loi ne satisfait pas aux attentes. L'autre chose, c'est que nous avons le Conseil constitutionnel pour voir les dispositions qui sont prévues dans ce cours et, disons, les engagements et les aspects liés aux droits humains.
Avec cette nouvelle loi, le législateur ne fait plus de différence entre le travail des activistes sur les réseaux sociaux et le travail professionnel d'information des journalistes, encore moins l'activité des défenseurs des droits humains. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé aujourd'hui en Arabie Saoudite pour des consultations avec les dirigeants saoudiens de la crise avec l'Iran, quelques heures avant l'annonce par les États-Unis de nouvelles sanctions majeures contre Téhéran, leur ennemi commun. Les États-Unis et l'Iran sont engagés dans un bras de fer depuis le retrait américain en 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien, suivi du rétablissement de lourdes sanctions économiques contre Téhéran, privées des bénéfices économiques escomptés de ce pacte. Les tensions se sont intensifiées avec des attaques d'origine inconnue contre des pétroliers dans le Golfe les 12 mai et 13 juin, imputées par Washington à Téhéran, qui a démenti, et elles ont été encore exacerbées avec la destruction le 20 juin par un missile iranien d'un drone militaire américain. Chef ouvrière de la politique américaine de pression maximale contre Téhéran, M. Pompeo a rencontré à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, le roi Salman avant de s'entretenir avec le prince héritier Mohamed Ben Salman, selon des responsables américains. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a demandé aujourd'hui que les membres des familles des djihadistes capturés ou tués en Syrie et en Irak soient rapatriés, à moins qu'ils ne soient poursuivis pour des crimes, s'exprima à l'ouverture de la 41e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Michel Bachelet a également lancé un appel auprès des États pour qu'ils accordent la nationalité aux enfants nés de leurs ressortissants dans les zones de conflit, estimant qu'infliger le statut d'apartheid à ces enfants est un acte de cruauté. Et puis, nuit de liesse à Istanbul, après la victoire de l'opposition quasiment inconnue, il y a quelques mois, Ekrem İmamoğlu a fait son entrée fracassante sur la scène politique nationale turque en rééditant dimanche sa victoire annulée 3 mois plus tôt contre un poids lourd du parti au pouvoir, l'ex-premier ministre Binali Yildirim. Devant le résultat sans appel, 54% de voix pour M. İmamoğlu, le président Erdogan a simplement félicité le candidat de l'opposition dimanche soir. Jean-Roger Billon à ce micro, vous le trouverez en Henri Francisque pour un nouveau journal dans 50 minutes exactement.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.